Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Anarchy in the UK, pour saluer à la fois le Brexit et l'arrivée dans ce studio de Daniel Cohen. Bonjour Daniel. Bonjour. Cohen, vous êtes économiste et vous êtes directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Le Brexit voté jeudi par les Britanniques suscite beaucoup d'inquiétudes au sein des places financières mondiales, soulève également de nombreuses interrogations du côté des économistes. Quelles conséquences cette sortie du Royaume-Uni peut-elle avoir sur l'Union européenne, sur l'économie française ? Les opinions s'échangent et aujourd'hui, une tribune publiée par Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, énonce la phrase et l'assertion suivante. Le départ du Royaume-Uni, écrit Jean-Claude Trichet, est certes regrettable, mais ce n'est pas un drame. Qu'en pensez-vous, Daniel Cohen ?
Je pense d'abord que ça peut être un drame pour le Royaume-Uni, car l'Écosse va partir. L'Irlande, ce sera pas simple, ça peut raviver beaucoup de tensions. On imagine mal une frontière entre l'Ulster et le reste de l'Irlande qui demanderait des visas à chaque fois qu'on la franchit. Vous savez peut-être que en Ulster maintenant les catholiques sont majoritaires, donc ça va aussi être un facteur de déstabilisation. Peut-être donc que l'Irlande sera à terme réunifiée et le Royaume-Uni amputé de l'Ulster. Et troisièmement, la City va disparaître. Donc ça fait quand même beaucoup de choses pour le Royaume-Uni, donc je crois que les conséquences politiques et en partie économiques pour le Royaume-Uni risquent d'être tout simplement considérables. Risque d'eux, parce que l'histoire n'est évidemment jamais écrite et un autre scénario aussi peut se profiler, mais on va dire que c'est quand même sur la table toutes ces incertitudes. Alors pour l'Union européenne et pour la France en particulier, les conséquences mécaniques économiques seront moindres, si ce n'est qu'une grande période d'incertitude n'est jamais très bonne au moment où la croissance aujourd'hui reprend, mais reste tout de même sur des fondamentaux très fragiles.
Ça a déjà débuté, les bourses chutent, ont dévissé, les devises, là aussi, évoluent. Est-ce que ça va durer peu de temps ? Est-ce que c'est uniquement un artefact lié donc à ce vote ? Ou est-ce que ça peut s'installer dans la durée, Daniel Cohen ?
On va voir. Je crois que ça va vraiment beaucoup dépendre de la situation britannique. Si on voit se dessiner le scénario de la mort pour le Royaume-Uni tel qu'on l'entend habituellement, si on voit tout ce que je viens de dire se profiler, alors l'onde de choc demeurera. Parce que d'abord, le Royaume-Uni est une économie importante, mais deuxièmement et surtout parce que du coup, on rentrera dans un jeu politique qui deviendra complètement incertain. Maintenant, les conséquences majeures pour l'Europe, elles seront politiques avant toute chose. C'est-à-dire que si on est capable de trouver une réponse satisfaisante, alors ça pourrait être un mieux, c'est-à-dire que le Royaume-Uni nous oblige à nous réveiller, puisque personne ne peut quand même douter du fait que l'Europe fonctionne mal, que la zone euro, même si elle a été absolument pas concernée par ce vote, les Britanniques n'y appartenant pas, évidemment, mais si on trouve des réponses positives, ça peut être un bien. Mais si on s'enlise et qu'en réalité on découvre qu'il n'y a pas de plan B, que les Européens ne sont pas capables en réalité de réagir à l'événement, alors tout ça, évidemment, peut créer un phénomène additionnel. Pour le redire encore d'une autre manière sur ce terrain politique, on a une séquence en 2016-2017 qui peut être un scénario à nouveau mortel. Un, le Brexit. Ça y est, on y est. De Trump aux États-Unis, puisque c'est quand même exactement les mêmes forces, je crois, qui ont voté pour le Brexit en Angleterre, le même électorat, les mêmes revendications, la même attente, le même mouvement anti-migratoire, pour le dire un peu comme ça, donc qui ont fait le Brexit. Trump peut se passer. Personne ne voulait croire au Brexit, il s'est passé. Personne ne veut croire dans l'establishment que Trump puisse être élu. Il peut l'être. Et puis, évidemment, la séquence française, toujours sur le terrain politique, c'est l'élection présidentielle avec forcément un meilleur score pour le Front National si Madame Le Pen peut s'adosser sur une série de réussites. Donc tout ça, voilà, dans le domaine politique, peut avoir des effets tout à fait importants. L'effet économique pour la France, etc., restera au regard de ces questions, je pense, dans un premier temps, du deuxième ordre.
Donc on l'a compris au travers de vos commentaires, Daniel Cohen, si vous aviez eu à voter à ce référendum sur le Brexit, vous auriez voté non.
C'est une question rituelle, mais franchement, je n'en sais rien. J'aurais pu m'abstenir. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain.
Vous n'avez pas chanté les louanges.
Non. Mais je veux dire que c'est très compliqué de l'extérieur de savoir exactement ce qui s'est passé. Regardez, le parti travailliste aujourd'hui, il est complètement déchiré parce qu'on reproche à son leader de ne pas avoir porté les couleurs du oui. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que quand on regarde l'électorat, la géographie électorale du Brexit, en fait, on voit toutes les vieux, toutes ces choses ont été bien commenter, mais on voit surtout les points forts du Labour en dehors, évidemment, de l'Écosse, qui ont massivement voté pour le Brexit. Donc, c'est un piège dans lequel est tombé Cameron. Donc, après, il y a des considérations tactiques. Mais bon, oui, pour le dire simplement, je pense que, vu du point de vue britannique aujourd'hui, c'est a priori une très mauvaise chose qui se dessine, et indépendamment des jeux tactiques et politiques qu'il faudrait réapprécier en interne, je pense que de ce point de vue-là, je me serais méfié d'un vote en faveur du Brexit.
Pour dialoguer avec vous, Marie Viennot du service économique de France Culture. Marie Viennot.
Oui, bonjour Daniel Cohen. Est-ce que vous pensez, vous, d'un point de vue économique, qu'il faut temporiser ou aller vite? Parce que temporiser, c'est aussi permettre aux entreprises de voir toute leur chaîne de valeur, leur lien avec le Royaume-Uni, donc préparer les négociations à venir. Et puis en même temps, il faut aller vite pour limiter l'incertitude sur les marchés financiers. Donc on peut comprendre les deux points de vue, en fait.
Ce que moi je pense, franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ce qui est important, c'est de voir quelle est l'attitude des dirigeants. Et en effet, il y avait deux attitudes possibles. Une, c'était de dire, bon, on va essayer de faire ça en douceur parce que personne ne peut gagner à ce que le Royaume-Uni, pour toutes les raisons que je viens de dire, soit complètement déstabilisé. Et puis, quel signal on enverrait une Europe dans la vente d'État? Et puis, autre côté, point de vue exactement symétrique, qui est de dire, non, ils veulent sortir, ils sortent.
Bon débarras.
Je sais pas si c'est bon débarras, mais il sort.
C'est une musique qui monte, en tout cas.
C'est pas le point que j'étais en train de dire. On peut en parler. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe sans le Royaume-Uni aura un autre centre de gravité, à la fois géographique, évidemment, mais aussi politique. Mais juste pour rester sur cette séquence, du point de vue des dirigeants, on peut se dire aussi, il faut qu'ils trinquent maintenant. Parce qu'il faut qu'on voit que sortir de l'Union Européenne, ça n'est pas une partie de plaisir. C'est très douloureux pour le pays
mais
qui en prend l'initiative.
Mais ça peut être mauvais pour les entreprises continentales qui ont des liens avec le Royaume-Uni.
Il y a l'économie, il y a la politique. Encore une fois, je pense que là, les considérations politiques sont vraiment, du point de vue de l'Europe, on va dire, à 27, qui demeurent plus importantes que les considérations économiques. Et donc la question, c'est, est-ce qu'on veut que ça se fasse en douceur? C'est pas très grave, vous voyez, on entre, on sort. Ou est-ce qu'au contraire, on se raidit, on dit, vous partez, alors maintenant vous allez vous retrouver seul à négocier votre place à l'OMC, seul à négocier des accords de libre-échange, etc. L'attitude, le sommet d'hier n'a en fait rien dit de très intéressant sur le plan européen de reconstruction. La seule chose qui s'est dite, je crois que c'est ça. C'est non, nous n'entamons aucune procédure, aucune négociation tant que la procédure, le célèbre désormais article 50, ne soit activée, ce qui veut dire qu'on est dans un compte à rebours de 2 ans. Aucune négociation avant, alors que Mme Merkel n'était pas exactement sur cette ligne au départ. Donc oui, c'est plutôt le raidissement. Vous avez voulu sortir, vous allez démontrer à la face du monde que c'est très coûteux. Voilà, c'est ça, je crois, l'arrière-plan des discussions d'hier. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, mais enfin, c'est comme ça qu'il faut voir le raisonnement des dirigeants européens. Non pas un grand plan B, non pas un nouveau traité, mais juste pour l'instant, au fond, assumer le risque de faire que ce soit coûteux pour le Royaume-Uni.
Marie Viennot.
Alors hier également, François Hollande a cité quelques priorités pour l'Europe et notamment l'harmonisation sociale et fiscale dans la zone euro. Alors est-ce que c'est souhaitable et surtout est-ce que c'est réalisable? Parce qu'on voit un peu, ça revient à chaque fois qu'il y a une crise européenne.
Daniel Cohen.
C'est assez affligeant parce que ça veut rien dire du tout. C'est-à-dire soit on parle d'une modification, d'une évolution de l'Europe vers une nouvelle structure d'ordre fédéral dans lequel on doterait, on va dire la zone euro pour simplifier, des moyens d'exercer sa puissance, c'est-à-dire d'avoir un parlement en vis-à-vis duquel il y a un exécutif qui dispose d'instruments propres, c'est-à-dire notamment une fiscalité. À ce moment-là, oui, c'est un saut qualitatif très important. Soit on reste dans l'intergouvernemental, qui est la règle depuis le déclenchement de la crise de 2008. La Commission européenne n'a pu prendre aucune initiative, tout simplement parce qu'elle n'avait aucun instrument pour exercer ses initiatives. Donc on est dans l'intergouvernemental qui s'est traduit par le fait qu'en Allemagne, la Cour constitutionnelle a exigé que le Bundestag vote sur à peu près tout ce qui sera décidé. Donc on n'est plus du tout dans l'Europe. On est dans un intergouvernemental avec un décideur en dernier ressort qui est le Parlement allemand. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc soit on accepte d'aller vers une nouvelle étape, soit on reste dans toutes sortes de vœux pieux. On va faire de l'harmonisation fiscale, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc je crois que c'est ça qui est décisif et on écoute écoutant hier les dirigeants, je me suis obligé, je crois, tous collectivement de se dire, mais en fait, ils n'ont absolument pas préparé les conséquences politiques de ce Brexit. Ils sont en train de nous ressortir la même sauce, l'Europe de la croissance et du progrès social, sans se doter d'aucun instrument nouveau qui permettrait de faire advenir cet horizon, cette utopie.
C'est effectivement le sentiment qui prédomine, y compris en Angleterre, ce qui peut paraître un peu inquiétant. Du coup, arrêtons-nous un instant pour essayer de voir avec vous, Daniel Cohen, quelles peuvent être les conséquences précises de ce Brexit. Alors tout d'abord, la première conséquence, c'est qu'on a affaire à des économies qui sont interdépendantes, qui avaient une forme de porosité au travers de l'Europe. Si l'Angleterre sort de l'Europe, cette interdépendance va être nécessairement atténuée. Avec quelles conséquences, selon vous ?
Bon, bah, elle sera à conséquence de la crise économique que va subir l'Angleterre. Bon, maintenant, l'Angleterre n'est pas dans la zone euro, donc il y a déjà, avec les variations de la livre sterling, il y a déjà, au fond, une accoutumance à ce que l'Angleterre soit un peu dedans, un peu dehors, selon que la livre sterling est forte ou selon qu'elle est faible. Non, je crois que la vraie importance qualitative, elle va être au niveau de la City, c'est-à-dire, est-ce qu'une nouvelle place financière va émerger en Europe ?
La France, pourquoi pas, dit les Échos ce matin.
Ouais, enfin, si y en a une qui émerge, ça sera plutôt Francfort. Mais bon, il y aura des restes à se partager. Peut-être que la France pourra faire jouer un avantage comparatif dans ce domaine. La France a d'autres avantages comparatifs à faire entendre aussi dans le domaine des start-up, de l'innovation. Pourquoi pas ? Il y aura beaucoup de choses à récupérer parce que le fait qu'on ne soit plus dans l'Union européenne, dans le cas du Royaume-Uni, voudra dire que, par exemple, ce qu'on appelle le passeport européen, qui permet à une banque qui est sise dans n'importe lequel des États de pouvoir faire des transactions avec tous les autres sans autre explication de texte, tout ça sera retiré. Donc il faudra en toute hypothèse et à minima qu'elles installent des filiales ailleurs. Maintenant, il y a d'autres pays qui peuvent tirer aussi leur parti. C'est tout simplement l'Irlande, ça peut être l'Écosse, c'est-à-dire qu'il y a le bénéfice de la langue. Donc beaucoup de choses sont encore ouvertes et c'est cette
incertitude. Les relations avec les États-Unis ?
Bah, les relations avec les États-Unis pour l'Union européenne, ça va absolument rien changer. Pour le Royaume-Uni, on se rendre compte que le grand frère, surtout s'il est dirigé par Trump, sera pas du tout disposé à avoir des grands accords embrassant-nous Folville, ce que d'ailleurs Obama leur a dit. Donc, je crois que, encore une fois, pour le Royaume-Uni, c'est une intense période d'incertitude qui s'ouvre et on va voir ce que ça donne, mais c'est plutôt de là que viendra le bruit en matière économique.
On a évoqué également la modification de l'agenda idéologique européen, puisque l'Angleterre était qualifiée de pays extrêmement libéral dans ses décisions. Est-ce que vous pensez que ça peut atténuer la dominante libérale de l'Europe actuelle, Daniel Cohen ?
Bah, ça aura certainement... Bien sûr, une conséquence, ne serait-ce que dans la façon dont, à chaque fois qu'on discute, par exemple, de la libre circulation, la libre installation des gens, les Britanniques étaient toujours du côté du libéralisme extrême. Les Britanniques, en fait, ont voté contre les flux migratoires, mais le gouvernement britannique était toujours du côté de ceux qui disaient le plus vite possible. Eux-mêmes ne se sont pas donné, par exemple, la période dérogatoire auquel ils auraient pu recourir pour limiter, dans un premier temps, les flux de population de Pologne, notamment vers le Royaume-Uni. Ils ont toujours été en avance là-dessus, mais encore une fois, au-delà de ce jeu, l'impact idéologique sera très fort. Pensons aussi à Trump, qui est la deuxième grande étape qui nous attend à la rentrée.
Trump est en train de baisser dans les sondages, ça ne signifie pas grand-chose, puisque les élections n'ont pas lieu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a 12 points d'écart entre Trump et
c'est ça, mais c'est ce qu'on avait dit aussi du Brexit, souvenez-vous, juste avant.
Je suis d'accord avec vous.
Les sondages des bookmakers étaient à 75% dans l'idée que le Brexit n'aurait pas lieu. Bon, et ça s'est finalement passé. Mais en toute hypothèse, ce qu'on voit, c'est que le modèle anglo-saxon, au-delà du jeu de pouvoir interne à l'Europe qui se révélera, mais le modèle anglo-saxon dont on nous a raconté à chaque fois qu'on faisait une loi qui était de déréglementer ceci et cela, qu'il atteignait le plein emploi, regardez le Royaume-Uni, et plus de chômage, c'est formidable, les États-Unis aussi, bah, on se rend compte que malgré tout, derrière, les gens sont malheureux, que bon, on a les mêmes problèmes sociaux que nous, et donc c'est cette question qui va être remise sur la table. Et finalement, les Anglais, pas plus que les Américains, ne sont heureux dans ce monde qu'on nous vante, nous, comme étant celui qui permet d'atteindre le plein emploi et donc la source de tous nos maux.
Daniel Cohen, on vous retrouve à 8h15, il est 7h55 sur France Culture.